C.
Ça se passe
sous ton balcon.
Bonjour, ici RMC Radio Marie-Christine, le 16e live, le live du mois d'avril 2021. Autour de cette table, il y a toujours à la technique le fabuleux Thomas qui triture des boutons, qui a apparemment un petit problème là, qui a l'option 15. Nous, tout va bien ? Ça va ? Ah. On a à ma gauche Lionel, le plus grand, le plus beau médiateur social de Laeken.
Entre autres. Bonjour Romain, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Très très bien.
Sous la neige,
sous le soleil. Voilà, un peu des deux.
Bah ouais. Et alors ce mois-ci, nous n'avons pas la douce voix de notre chère Louise qui est prise par beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Mais nouveauté autour de cette table.
Ben, il y a une Louise, on va dire, est-ce qu'on peut l'appeler la numéro 2 ? Parce que ça fait déjà 4 fois que tu passes à l'antenne, Louise. Bonjour,
c'est
Louise.
C'est vrai, bonjour.
Accompagnée de Rachel, ton acolyte. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Alors Louise et Rachel, ce n'est pas une première pour vous à RMC ?
Ben non, ça commence à devenir une petite habitude. Avant, on faisait des créations, maintenant on se retrouve co-présentateur.
Oui, c'est déjà la deuxième fois qu'on vient, d'ailleurs.
Ouais.
Et ben voilà, vous êtes les bienvenus, on est très contents que le plateau change et qu'on ait des nouveaux visages et des nouvelles voix. C'est ça qui est chouette sur notre antenne. Et ben Louise, je te propose de nous faire un petit rappel de bref
ben
de
oui.
Ce qu'est Radio Marie-Christine.
Oui, du coup, la Radio Marie-Christine, on le rappelle, est une radio de quartier, donc à Laeken, pour les Laekenois. Et donc, elle est vraiment ouverte à toutes les personnes qui veulent venir faire des créations ou à participer, à présenter quelque chose. Donc, si vous avez quelque chose à partager, eh ben, n'hésitez pas.
Et alors, où est-ce qu'on nous écoute ?
Eh bien, on écoute Radio Marie-Christine dans la rue, Marie-Christine. Et on écoute aussi la Radio Marie-Christine sur Radio Panique en direct 5.4, tous les deuxièmes lundis du mois à 13h et en podcast sur votre plateforme préférée.
Ouais, la rue Marie-Christine, quoi, bientôt pouvoir rebaptiser la rue Radio Marie-Christine. On va peut-être essayer de lancer une pétition. Voilà, nous avons des habitudes et des habitués aussi sur notre plateau. C'est le cas des enfants qui fréquentent l'interstice ASBL qui sont avec nous tous les mois. Ce mois-ci, ils seront avec nous par téléphone juste après qu'on ait entendu leur création de ce mois-ci.
Le tour de Laeken.
Le tour de Laeken.
Épisode 4.
Bienvenue dans notre église, Notre-Dame de Laeken.
Devant l'église, il y a des statues qui portent un cadavre, des bébés nus et des femmes avec des robes bizarres.
Moi, je viens dans l'église. Mais écoute, je suis le sacristain ici, Notre-Dame de Laeken. Ah. J'ai 84 ans.
Wow.
J'ai d'ici l'église. Il y a toutes sortes de choses. Il y a le calice à préparer, les hosties et du vin. Tu vois ? Non, bien sûr, depuis le Covid, on doit mettre des petites bouteilles avec le gel pour se frotter les mains chaque fois, parce que quand on touche, il faut être très prudent.
Voilà, essayez de lire ce qui est indiqué sur la plaque.
Le 27 mai 1854, Léopold Ier, roi des Belges, pose la première pierre de l'église
en hommage à la première reine. Il a bien fallu 50 ans pour qu'elle soit terminée, et elle n'est pas encore tout à fait terminée.
À l'époque, Laeken était comme une campagne, très calme.
C'était un champ, tout Laeken, c'était un champ, quoi. Et maintenant, c'est une ville.
Monsieur, est-ce qu'il y a des habitants ?
Ils sont à deux pattes et ils volent.
C'est des pigeons, non ?
Non, les pigeons, justement, c'est la bonne petite nourriture des faucons. Donc hier, j'ai tenté de remplacer des lampes. J'étais dans un grenier et j'entendais les faucons. Là, c'est un canard qui passe.
Dans la crypte, tous les rois et reines sont enterrés.
Ça, je crois que ce sont les noms de tous les rois.
Le premier roi des Belges s'appelle comment ?
Léopold Ier.
Ah, c'est normal, c'est le premier.
C'est Léopold I, Léopold III, Léopold je ne sais pas combien.
Albert Ier, le roi chevalier.
Louise-Marie.
Léopold XI, le bâtisseur.
Non, c'est deux.
Ah, c'est deux, c'est parce qu'il y a un.
Quand les rois voulaient faire une messe particulière, ils allaient là. Et en dessous, dans les fondations, il y a la crypte royale.
Alors,
là, maintenant, on marche sur des rois.
Là, là. Pas juste ici, mais là.
Pourquoi vous avez les clés d'église?
Quand mon grand-père est décédé, mon papa a pu accéder à la fabrique d'église. Voilà, on peut toujours voir qu'un seul membre direct dans la fabrique d'église régit encore du décret de Napoléon du 30 décembre 1809. Eh oui, et ça, c'est le trousseau historique de mon papa. C'est un peu le système de passe-partout dans Fort Boyard. Il a beaucoup de clés, ben moi aussi.
Comment on appelle ça, les vitres comme ça, de couleur?
Les vitraux.
Avec la lumière, c'est beau. Hein.
Une travailleuse, un jeune travailleur, vaut plus que tout l'heure du monde. J.Cardin.
Alors là, on va monter 44 marches.
J'ai la tournée.
J'ai mal au pied.
31,
32, 33,
34.
Ça
tient bien?
Oui.
Dès que je marche, j'ai l'impression
que c'est bien.
Au
niveau de
l'ordre.
Sur la marche.
Wow. On a la vue de toute l'église.
Wow.
On dirait qu'on est dans un endroit magique.
Toujours le même effet. Ça dégage quelque chose, en fait.
Je ne suis jamais rentré dans cette église alors que j'habite ici depuis 19 ans.
À ton avis, combien y a-t-il de mètres de hauteur?
La tour, on va dire, on s'est monté jusqu'à une certaine hauteur.
Sinon, on ne sait plus respirer?
Non, ça, on sait toujours respirer. Si vous voyez le coq qui est ici à 102 mètres, il y a 16 ans, il y avait l'échafaudage, et ben, je suis personnellement monté jusque là-haut. On a une vue magnifique.
On aurait le vertige. J'aurais eu peur, très très peur même. Oui. Est-ce que c'est un piano ici?
L'orgue, ou si tu veux, un grand piano.
Et on peut essayer?
Sur le petit, je veux bien essayer de l'allumer.
Il va nous jouer le spécialiette.
C'est de l'air qui passe dans les tuyaux. Hein. C'est ça qui fait la musique, c'est comme quand on souffle dans une flûte. Hein. Mais avant, il y a plus de 50 ans, c'était quelqu'un qui devait pédaler.
Alors, pas aller chez Bézéfit, c'est gratuit. C'est
Je m'appelle Ashkin Yashinkaya.
Marwa Damiri.
Rim Karkafi.
Yeton et Bibi.
Prochain arrêt, le monument au travail.
RMC Radio Marie-Christine, retour au direct. Alors, on accueille par téléphone Ashkim, une des participantes de cette création sonore. Bonjour Ashkim, est-ce que tu me reçois bien?
Oui.
Super Ashkim. Tu es à la maison pour l'instant?
Oui.
Qu'est-ce que tu as prévu de faire de cet après-midi?
J'ai prévu de réviser mes devoirs.
Ah, c'est bien ça, courageux. Alors Ashkim, on a fait ensemble cette création sonore dans l'église Notre-Dame de la Queune. Alors je voulais te demander, est-ce que tu étais déjà rentré dans l'église avant cet atelier?
Non.
C'était une première fois donc. Et alors pour les gens qui ne seraient jamais rentrés dans cette église, est-ce que tu peux un peu nous décrire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on pousse les portes de cette église comme tu l'as fait?
C'est beau,
mm-hmm.
C'est grand, c'est très grand.
Très grand. Et d'ailleurs je crois qu'on est monté ensemble encore plus haut hein, dans l'église.
Oui, on est parti comme dans un balcon.
Et est-ce que toi aussi tu as eu l'occasion de jouer de l'orgue? Cet instrument de musique?
Oui.
Et tu avais déjà fait du piano avant?
Oui.
Donc c'était pas une première fois pour toi, hein?
Pardon?
C'était pas la première fois que tu faisais de la musique alors?
Oui.
Et quel souvenir le plus marquant tu gardes de cet atelier? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
C'est l'orgue et le balcon.
Et le balcon. Et alors, le temps aussi, hein. Si on rentre dans cette église, on a parfois l'impression de pousser la porte du temps et de remonter très loin dans le passé. Et est-ce que tu as encore des images qui te viennent de l'église? Ça peut être des...
Il y avait des cadres avec des informations sur des personnes.
Oui, alors ces personnes d'ailleurs, c'était, je crois, le roi, la reine et tous leurs ancêtres, hein. Et est-ce que tu as envie de présenter un petit peu cette église à ta famille, à tes amis, de retourner dans les lieux?
Oui, bien sûr.
Super. On pourra le faire peut-être lors des journées portes ouvertes, parce que alors là, les portes de la tour seront ouvertes et on pourra monter encore plus haut. Et peut-être voir, entendre, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des habitants là, tout en haut.
Ah oui, des perroquets, non, pas ça, pas ça, des corbeaux.
C'était ni des perroquets ni des corbeaux, c'était des faucons. Et donc les faucons, bah, ils mangent un peu de tout, donc perroquets, corbeaux, pigeons. Et on se souvient de Benoît qui était monté là, tout là-haut et qui nous a dit que la vue était très belle. Et alors on salue, on en profite pour saluer aussi Robert hein, de la Queue Découverte, qui était notre guide, qui nous a fait un peu découvrir l'église, son passé, etc. Ashkim, est-ce que tu as des envies, des idées de nouvelles créations sonores pour la suite?
Non,
pas spécialement. Pas spécialement, eh ben, ça va. Mais si ça te vient, on est toujours disponible et on sera toujours en contact avec l'interstice, bien sûr, qu'on salue, pour poursuivre l'aventure et le tour de la Queue, dont le prochain épisode ira faire un tour du côté du monument au travail. Merci Ashkim d'avoir été avec nous. Bon courage pour tes devoirs.
Merci.
Et un gros bisou à toute ta famille.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Rachel, la suite du programme, qu'est-ce qui nous attend?
Alors, donc, pour la suite, on va avoir le micro-trottoir de moi et Louise, le deuxième qu'on a pu faire. Et donc, on a été poser des questions aux gens sur la radio. Et vous allez voir que la radio, c'est plus vraiment la même chose.
Vas-y, leader charismatique, c'est pour toi, chacun son tour.
Ok, alors est-ce que vous écoutez encore la radio?
Qu'est-ce que la radio?
Qu'est-ce que la radio?
Dans la voiture.
Non.
Non?
Parce que c'est démodé, genre maintenant on écoute... Enfin moi perso j'écoute pas, je regarde.
Moi j'ai jamais écouté la radio.
Parce que on va dire la technologie elle a avancé, il y a d'autres choses qui...
Apple Music, Spotify et tout, ça remplace. Parce que la radio, on la trouve plus à la maison maintenant.
À la limite, il faut toujours changer pour trouver une belle musique. Du coup, on reste à appuyer.
On n'est plus dans la même époque aussi. On a changé nos principes, nos idées, nos mentalités. C'est pour ça aussi.
Mais tout le temps. Hein.
Ah ouais?
Quand je suis au service, je suis avec du radio, les informations, toutes les informations. Hein.
Oui, moi, oui, un peu.
Un peu, oui.
Quand je travaille, je suis dans la voiture. Dans la voiture?
Moi, ça m'intéresse avec la pandémie et tout, aussi, quand ça se finit, est-ce qu'il y a les quarantines et tout, est-ce qu'il y a beaucoup de choses?
Je disais à mon ami, hein, en écoutant la radio, on dirait qu'on est dans le métro. Hein, à un moment donné, il y a ces chaînes, hein, catastrophe. Franchement, du nostalgique, hein, des musiques, de quoi faire vivre les gens, un peu de sourire, allez. Des musiques à l'ancienne.
Oui, tout à fait, le matin, j'aime bien. Avant d'aller travailler, j'aime bien écouter de la radio. L'actualité déjà de 1. Et de 2, bah, écouter la musique aussi des fois, mais bon, ça dépend.
Est-ce que vous voulez?
Non.
Oui, parfois dans la voiture.
Déjà parce que j'ai pas de voiture et ben j'ai pas de radio chez moi.
Ah quoi, que si au travail, mon patron, il met nostalgie la journée. Donc j'ai pas le choix, quoi.
Ben, on n'écoute pas parce que c'est vieux quand même et que ben on est quand même dans l'époque contemporaine.
S'il parle de foot, ok.
Ouais, de trucs à la mode.
Des chansons,
de
Maître
Gims, des jeux de vidéo aussi.
Des jeux vidéo, des trucs comme ça, c'est bon.
Une radio de quartier.
Ouais.
Ah ouais, ça c'est différent, c'est intéressant. Ouais, avec les jeunes et du quartier, tout ça, ouais, ça c'est sympa.
Bah ouais, pourquoi pas pour écouter des conneries qu'on dit, ouais.
Ce serait intéressant.
Franchement, ça pourrait être intéressant. Un petit retour aux sources aussi. Ah oui.
Obligé. Genre, même s'il y a eu un petit problème, on aimerait bien l'entendre, genre savoir, être au courant.
Il y a des choses qui sont dites, par exemple, dans la DH, mais sur un site. Mais on voudrait plus oralement, ce serait mieux.
Non, c'est juste, j'aimerais bien savoir les trucs qui se passent au quartier, c'est bon.
Que ce soit d'activités qu'on pourrait faire dans le quartier, que ce soit de ce qui se passe dans le quartier, de ce qu'on voudrait construire ou pas. Ici, à côté, ils veulent construire des choses et il y a des pétitions, tout ça, donc...
Quand ils vont terminer leurs travaux là-bas parce que c'est trop chiant.
Comment il a été construit, par exemple? Je me demande parce qu'en fait, normalement, il n'y avait que verre, par exemple, il n'y avait que de la terre. Je me demande comment ils ont construit tout ça. Mm-hmm.
Tout ce qu'on pourrait résoudre, tout ce qui pourrait aider les jeunes à ne pas traîner trop dans la rue, les activités à faire.
Et voilà, ouais, peut-être une radio hein, avec un peu de fun. Et voilà, tous les dimanches, samedi, dimanche, dédicace aux jeunes.
Je ne sais pas si tu vas mettre de la musique. Pourquoi vous ne mettez pas de la musique
ouais. Est-ce que tu as des artistes à nous conseiller?
Ah, j'aime bien Céline Dion. Sous le vent, si tu crois que j'ai fui. Hey, tu enregistres, hein, j'espère.
Ouais.
salute Radio Marie-Christine et voilà le flashback.
Alors, on n'a pas prévu de diffuser du Céline Dion aujourd'hui. On va y repenser pour les mois à venir, mais c'est pas sûr. Mais par contre, on peut venir chanter du Céline Dion en direct sur la radio. Ça,
ah oui, ça peut être pas mal, je peux essayer, si jamais.
Tu veux vraiment ?
Non. Non. On va éviter.
Rachel, cette petite expérience de micro-trottoir dans la rue, dans le quartier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé ?
Eh ben, franchement, en parlant avec les gens, on voit que la radio, déjà, ça a changé. Mais on voit aussi que les gens ont vraiment envie de... Les radios de quartier, ça les intéresse quand même. Ils sont intrigués et on voit qu'ils ont envie de découvrir plus là-dessus, de découvrir sur leur... les gens qui les entourent, en fait, sur leurs voisins, tout simplement. Donc, c'est plutôt chouette. Je trouve que c'est une bonne initiative, en tout cas, à continuer, vu les réactions.
Ok, et le fait d'être allé, toi, dans la rue avec l'enregistreur ?
Moi, j'adore. J'aime bien. J'aime bien aller au contact des gens, j'aime bien parler. Donc, c'est vraiment chouette voir... En fait, on a peur d'aller vers les gens, mais on voit que les gens, après, ils ont envie de parler. Donc, c'est une super bonne expérience.
Allez, chouette. Et ben voilà, ouais, par rapport à ce qu'ils disent, on entend pas mal de gens qui disent qu'ils ont un intérêt par rapport à ce qui se passe dans le quartier, qu'ils aimeraient en savoir plus, etc. Et donc la transition est toute faite vers une création qui a été faite ce mois-ci par Chila, qu'on retrouvera par téléphone après. Chila, qui est une habituée de Radio Marie-Christine, et elle s'est intéressée à un lieu qui s'appelle le Dunderberg. Je ne vais pas en dire trop parce que tout est dit, je pense, dans la création. Voilà, mais c'est simplement suite à une commission de concertation qui avait lieu le 23 mars dernier qu'elle a fait cette création qui s'appelle La bataille du Dunderberg.
Une chose que j'ai apprise avec la vie, c'est que l'aventure nous attend toujours au coin de la rue.
Bon, alors voilà, j'ai accédé au Dunderberg. La porte était ouverte, le grand portail vert qu'on voit. Je crois que c'est rue des Horticulteurs. Et j'y suis, là. C'est très calme. C'est beaucoup de végétation sauvage, de la végétation au sol qui court partout. Des ronces, beaucoup d'arbres. Très vieux, certains tombés. Des oiseaux partout. On ne peut pas trop accéder à la partie pleine, justement à cause de cette végétation au sol.
J'ai mis du temps à découvrir que cet espace vert dense qui se refusait sans cesse à moi, malgré un an de promenade de confinement dans mon quartier aux prises avec la pandémie de Covid-19, avait un nom, le Dunderberg.
Bonjour, j'ai une question quand même générale. C'est, je crois qu'il y a deux dossiers sur l'agenda, sur l'enlèvement du chemin Vicino et après sur le dossier pour l'école.
Il y a en effet deux points, c'est vrai, mais on a essayé...
Cela ne fait qu'un an et demi que j'habite ce quartier, mais bien avant cela, j'avais eu l'occasion de m'étonner de cet espace vert tout proche et pourtant inaccessible que l'on apercevait depuis les magnifiques jardins du fleuriste. Mais pourquoi ne peut-on pas y pénétrer ? Au moment où je voulais me renseigner là-dessus, j'apprends qu'un projet immobilier menace de détruire pour toujours cet espace que je rêve d'arpenter depuis des années.
Attendez. Tom, ja. Ich höre es nur schlecht, sag mal.
Un collectif d'habitants se bat contre le projet depuis des mois. Ensemble, ils défendent cette zone verte jusque dans les commissions de concertation successives qui ont jusqu'ici permis de retarder mais non pas d'annuler le projet.
C'est possible maintenant de voir un PowerPoint.
En cette fin mars 2021, grâce à mon courriel au cabinet de l'urbanisme il y a un an et aux pétitions que j'ai signées depuis, je suis conviée à la commission de concertation qui décidera de l'avenir du projet HOP4.
J'espère que tout le monde voit l'écran.
Nous sommes environ 100 personnes connectées à cette réunion Zoom où l'échevine de l'urbanisme Hans Persons nous accueille.
Et comment on entend bien, mais la connexion n'est pas bonne. N'hésitez pas de faire de nous le signaler. Merci, ça veut dire le Dunderberg, le comité de quartier Dunderberg et la commission de consultation.
Riverains, associations, membres de la commission, architectes, tous rassemblés pour faire œuvre de démocratie. J'aime bien ces moments-là, où l'on se sent plus citoyen que d'habitude, où l'on a l'occasion de participer au processus démocratique, d'être acteur de son quartier et non pas seulement spectateur impuissant.
Ou bien comprendre cette demande pour la suppression de ces 3 semaines vicinaux, c'est nécessaire de regarder l'origine de ces chemins, leur signification actuelle et leur potentiel dans le futur. On connaît tous le site du Donderberg qui se trouve entre le rue Mont-Saint-Alban, rue des Horticulteurs, le rue Médori, et qui fait le lien entre, on peut dire, la partie d'habitation de la ville Bruxelles-Laeken et les chemins ont une valeur très spécifique là-dedans et leur origine aussi se trouve sur les différents éléments en jeu ici.
L'ail des ours.
Il n'y a quand même pas énormément ici.
Non, c'est mieux pour le moment.
C'est quand même le roi Baudouin.
C'est vrai, le roi Baudouin est quand même plus généreux. Et alors, c'était des chemins vicinaux qui permettaient d'accéder d'un point à l'autre, mais il y avait un chemin vicinal qui permettait de relier les puits des habitants.
Ah oui.
Ils avaient des puits collectifs, tu vois, toutes les 2-3 maisons. Ça va par là, non ? Ou ça va par là ?
J'ai l'impression que ça va par là. Ça
ouais.
Les architectes de la régie foncière de Bruxelles ont la parole en premier pour présenter la nouvelle version du projet HOP 4. HOP, H-O-P, pour Horticulteur Perruche, le clos des perruches, désignant on ne sait pas trop pourquoi le site du Donderberg. Une école de 650 places avec un gymnase et un immeuble de 7 logements. Suite à la dernière commission de concertation, où on leur a demandé de laisser la moitié du Donderberg intacte, ils ont revu leur copie et ils enlèvent moins d'arbres. Par contre, le gymnase empiètera sur l'un des chemins vicinaux et l'allée d'accès à l'école empiètera sur l'autre.
Merci pour cette présentation très, très précise, madame. Et je propose de tout de suite céder la parole à la représentante de la RAO pour enchaîner sur le sujet. Marion ?
Oui, merci. Je voudrais simplement insister sur 3 choses. La première, c'est qu'on a tous vu la valeur exceptionnelle de ce site, la valeur en tant que paysage, la valeur pour la biodiversité et la valeur pour la pratique, la promenade et la valeur en tant que lien pour accéder à d'autres espaces verts de notre territoire régional bruxellois. On voit à quel point ça permet de relier ces espaces verts à un quartier très dense, le quartier Boxtal, un quartier qui est densément peuplé, qui a besoin d'espaces verts. Et c'est ça qui est fantastique, c'est une exceptionnelle opportunité, ce site. Alors, je dois dire aussi et reconnaître que la RAO intervient tard sur ce dossier. Pourquoi ? Parce que nous, on est des fervents défenseurs des équipements publics. Et puis, bon... un moment, on est allé sur place, on a rencontré les habitants, on a découvert le site. On s'est dit, ah oui, bon, ok. Là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut valoriser.
Merci. Ouais, super. Ouh.
Le Donderberg faisait partie de la donation royale de 1900, avec les jardins du fleuriste, le parc Sobieski, le jardin colonial et l'ensemble du parc de Laeken et d'Oseghem. On nous présente la lettre du roi, datée de 1900, qui stipule que ces terrains sont destinés à l'agrément du peuple et qu'ils devront rester vierges de toute construction d'immeubles de rapport.
Madame Persons, je crois que Albert aimerait dire quelque chose.
J'étais en train de parler sur le micro, pardon. Monsieur Albert, vous avez la parole ? Oui, pardon.
Oui. Bonjour. Disons que... moi, personnellement, je connais bien le quartier parce que c'est la maison de mes grands-parents qui ont acheté ça en 1920. Et ça a été la succession avec mon père et ma mère, puis moi. Quoi. Depuis que c'est devenu sauvage, j'ai constaté que beaucoup d'animaux sont apparus, quoi, comme des batraciens, des oiseaux, des renards, des lions. Et c'est quand même quelque chose qui est assez rare dans la vie. Donc, en ça plus ou moins sauvage et laissant les chemins vicinaux, ça serait l'idéal, quoi. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, quoi.
Ok, merci Monsieur Albert.
Je veux dire, tu vois, c'est des tout petits chemins.
Bah oui, mais tu sais, comme dans les marais de Gansoren, là où on s'est promené, ou dans la réserve naturelle du Mourasque, là près de Skarbek, près des voies de chemin de fer, ils ont réussi à garder le côté naturel vraiment et aménager quand même un petit chemin pour les promeneurs. Ouais. Je pense qu'il y aurait moyen.
Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, super. Est-ce que vous voyez bien mon écran?
Oui.
Parfait. Donc bonjour à toutes et tous. Mon nom est Charlotte Simon. Je travaille pour l'association Natagora, qui est donc association de protection de la nature sur Bruxelles et en Wallonie. Alors par rapport au site en lui-même, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a une diversité au niveau des milieux et des strates végétales. C'est-à-dire qu'on a une zone boisée, avec des vieux arbres, mais on a également tout un espace ouvert, avec des lisières, avec une zone de plaine. Et c'est l'agencement de ces différents milieux qui est vraiment, dans ce cas-ci, très intéressante. Parce que ça, s'il y a une diversité de milieux, ça veut dire qu'il y a une diversité au niveau faunistique qui peut être là. Donc c'est vraiment la combinaison de tous ces milieux qui, dans ce cas-ci, est vraiment très intéressant sur ce site. De plus, comme je l'ai dit, il y a un espace ouvert ou un espace plus de type friche. C'est un habitat qui devient rare en contexte urbain. Or, le projet d'école actuellement prend place quasi sur la totalité de cette zone ouverte. Il y a également un patrimoine arboricole qui est intéressant. Les vieux arbres sont ultra intéressants d'un point de vue de la biodiversité. Il y a plein de cavités, il y a plein d'infractuosités qui servent d'abri et d'habitat pour la faune. Je rejoins tous les commentaires qui ont été faits par avant sur le fait de ne pas prendre assez en compte l'existant. On fonce tête baissée avec un projet sans faire vraiment une étude complète de l'endroit. Alors évidemment, il y a d'autres stratégies, d'autres engagements sur la création d'écoles, sur la création de logements, etc. etc. Mais la nature est toujours prise, c'est toujours le dernier de la file, en fait. Et il vient vraiment, il ne prend pas une position centrale, alors qu'il serait possible, je pense, de trouver des compromis entre tout ça.
Ah ben voilà, une case de cocher. Enfin, j'ai fait la balade du Donderberg. Ça faisait des années que...
La balade secrète.
Ouais, voilà.
Notre vision finale est que la préservation intégrale du caractère vert du Donderberg, la création de voies d'accès via des chemins vicinaux existants, sa jonction aux autres espaces verts de lac et donc son ouverture au public représentent un bénéfice sociétal pour la ville et la région maintes fois plus important que l'établissement d'une école de cette ampleur sur le Donderberg. Cette vision, elle est dans l'air du temps, car elle embrasse parfaitement les politiques voulues par la ville et par la région, telles la protection des intérieurs d'îlots, la lutte contre la bétonisation et l'imperméabilisation des sols, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, le plan canopée, la préservation et le renforcement de la biodiversité en ville.
Vous me croirez ou non, la réunion a duré presque 6 heures. Ce sont 6 heures durant lesquelles personne n'a décroché. Et moi non plus. C'était captivant.
Madame, messieurs les membres de la commission de concertation, merci vraiment pour votre écoute et surtout pour votre patience. Les riverains du Donderberg et des Lakenois s'en remettent à votre expertise pour statuer sur le projet OP4 qui vous est soumis.
Une création radiophonique pour RMC, Radio Marie-Christine, réalisée par Tila Déac et montée par Romain Asséna.
Et donc, on retrouve en direct par téléphone Tila. Bonjour Tila.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah, très bien.
Merci pour cette création. Je me rappelle que tu m'as dit que tu voulais rajouter quelque chose.
Je voulais rajouter quelque chose à la création, tu veux dire?
Oui.
En fait, c'est simplement pour dire qu'il y a on attend les résultats de la commission et il faut aller chercher les résultats nous-mêmes. Et je n'arrive pas à trouver l'endroit au cabinet de l'urbanisme, donc je compte leur écrire. Mais en tout cas, vous pouvez suivre le projet sur Save Donderberg, Ils ont un site, savedunderberg.laken.brussels, et ils publient toutes les infos concernant la progression de la bataille du Dunderberg, qui anime beaucoup notre quartier.
Oui, hein, on en entend parler un petit peu beaucoup, partout dans le quartier.
Oui, je crois que c'est la troisième commission déjà sur le sujet. Voilà, c'est une bataille qui a des rebondissements j'admire la ténacité du comité de quartier et de Save Dunderberg qui sont sur le coup à chaque fois et lors de cette commission à nouveau. Voilà, en publiant des études, en se débrouillant entre habitants pour essayer de contrer le projet immobilier. Donc voilà, c'est en tout cas une affaire intéressante à suivre et qui concerne de près les Lakenois.
Oui, et puis nous, on te remercie pour cette création et sa forme qui était quand même plutôt originale, on va dire. Tu étais parti de l'envie d'une chronique.
Oui, au départ, j'avais pensé à une chronique. Il aurait fallu la faire en direct et lancer les sons, ce qui est un petit peu compliqué en temps de Covid. Et puis finalement, j'ai eu par hasard l'opportunité de me faufiler dans le Dunderberg. Et lors de la commission de concertation, une personne m'a aussi indiqué que, en fait, je pensais que c'était illégal, mais que j'en avais le droit, puisque les chemins vicinaux qui sont dans le Dunderberg devraient normalement être accessibles à tous les citoyens. Je ne savais pas. Donc voilà, c'est une entrée qui est fermée, mais qui normalement devrait être ouverte. Donc voilà, on peut parfois s'y faufiler. J'ai eu la chance de le faire et c'est vraiment un très beau site. Donc j'étais très très contente de le voir enfin. Voilà, on verra pour la suite du projet évidemment.
Donc on apprend et on en découvre tous les jours dans son quartier autour de chez soi.
Eh oui, l'aventure est toujours au bout de la rue. Et ça c'est quand même toujours chouette.
Bah oui, et puis toi, tu es une habituée de Radio Marie-Christine depuis un an aussi.
Oui, ça fait plus. J'ai eu l'occasion de participer pour la première fois à la fin du premier confinement. Et puis voilà, sous différentes formes, soit sur un sujet ou l'autre, j'ai participé à la fiction collective ou envoyé un poème musical ou un reportage chez mon épicier. Enfin voilà, je trouve que la radio locale c'est un très chouette média. Et voilà, c'est un projet auquel je suis très contente de participer.
Eh ben écoute, merci beaucoup et bienvenue hein, pour la suite. On va encore faire des choses. Hein.
Ouais. Ben j'espère.
Je crois qu'on manque pas de sujets, d'initiatives et de collègues avec qui faire des choses aussi dans le quartier.
Et oui. Un quartier plus riche qu'on ne croit.
Et oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sheila. On se tient au courant.
Merci à vous et bonne continuation.
Merci. Et on va continuer tout de suite on avait l'habitude chaque mois de vous diffuser un épisode d'une fiction radiophonique. Je sais qu'il y a quelques personnes qui l'attendent avec impatience. Eh bien, non. Pas ce mois-ci, il n'y aura pas d'épisode de la fiction ce mois-ci puisque nous sommes partis sur une autre idée, on s'est donné un petit jeu, peut-être, c'est assez drôle ce mois-ci, on a beaucoup de choses comme ça où on est allé rencontrer les gens dans la rue, il y a eu une envie ce mois-ci un petit peu collective de retourner dans la rue et d'aller directement voir les autres, les gens, se rapprocher un petit peu. Et donc on va vous diffuser une création qui s'appelle Paroles de Mars.
Bonjour, je vous laisse la parole.
Pour dire quoi?
Je sais pas moi.
Bah il fait beau aujourd'hui. Si vous voulez que je dise d'autre.
Bah ça je sais pas.
Ah malheureusement je sais pas non plus quoi dire. Hein. Si vous avez des questions.
Aucune question.
Allez-y, enregistrez mon silence alors. Ça fait du bien d'entendre les voitures passer. Ouais le vent il est un peu fort. Le ciel est gris. Ouais, le vent il est un peu fort. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Et vous faites quoi dans votre vie, vous?
J'habite près d'ici.
Vous habitez près d'ici?
J'habite près d'ici.
Vous habitez près d'ici? C'est votre métier, ça?
C'est une passion.
C'est une passion.
C'est une passion.
C'est une passion. Je comprends. Okay. Ben, je pense que je vais vous laisser.
Ça marche.
Merci. Je vous laisse.
Bonne journée.
qu'on vous donne la parole.
Par rapport à... Pourquoi?
Tout.
Tout ce que je veux dire. Ah ouais, c'est compliqué ça en fait.
Comment on arrive, comment on raconte ça?
J'avoue, je sais vraiment pas quoi dire. Aucune idée, j'ai pas d'esprit là.
Je regarde l'arrêt, il est vide. Avant, il y avait le parking ici. Les gens viennent stationner, acheter quelque chose. Et maintenant, ici, maintenant, ils ont supprimé le parking. C'est un problème pour les commerçants.
Ah, bah, le quartier, il est mort, mon ami. Le quartier, il est mort. Ah, bah, le quartier, il est mort, mon ami. Le quartier, il est mort. Ah, bah, le quartier, il est mort, mon ami.
Il n'y a rien de...
Le quartier, il est mort. Ah, bah, le quartier, il est mort, mon ami.
Il n'y a rien de...
Le quartier, il est mort.
Ah, bah, ah non, avant, il y avait un parking, c'était bien. Les gens viennent stationner, acheter quelque chose. Maintenant, le parking, ils sont supprimés. Il n'y a pas de parking. Alors, c'est des problèmes, ici. Il y a des problèmes de stationnement, ici. Les commerçants, ils souffrent.
Le quartier, il est mort. Ah, bah, le quartier, il est mort. Le quartier, il est mort.
Il n'y a rien de... Le quartier, c'est mort.
Le quartier, il est mort. Le quartier, il est mort.
Alors, c'est des problèmes, ici. Le problème de stationnement, ici. Les commerçants, ils souffrent.
Le quartier, il est mort.
Regarde, la rue, il est vide. Avant, il y avait le parking, il sait les gens. Il vient stationner, acheter quelque chose.
Le quartier, il est mort.
Vous avez la parole.
On en a marre du masque, on en a marre d'être embobiné.
Ça c'est mon idée. Il y a le bas des masques, c'est vrai. Vous n'avez même pas mis le masque, vous.
Non.
Et pourquoi vous n'avez pas mis le masque? Non, normalement, ils vont faire le masque. Sinon, tu vas avoir un amende. Si la police passe, ils vont te faire 250 euros, mon ami. Ah oui. Ils ne passent pas rester si vous n'avez pas de masque, 250 euros. Doucement, ils vont supprimer ces masques, je pense, non?
Bah, je
tu
pense.
Penses aussi, oui.
Je
parce
pense.
Que toi, tu ne l'aimes pas mieux, alors.
Non.
Tu n'as pas peur de la Covid?
Non.
Non?
Non.
Tu n'as pas peur de Covid?
Non.
Le virus existe quand même, monsieur. Il faut faire un masque.
C'est vrai.
Si, vous y allez. Ça ne va pas être facile avec eux. C'est quoi la question? Ah, vous ne posez pas de questions?
Non.
C'est quoi la question?
Bon, eh ben, ça fait très longtemps que je suis là. Vous ne posez pas de questions?
Donc, je suis appuyée du quartier puisque je tiens le copy service qui est juste là. C'est quoi la question?
Donc, je fais un peu office de.
Ah, vous ne posez pas de questions?
De tout.
C'est quoi la question? De tout. C'est vrai qu'en général, j'ai l'habitude qu'on me pose des questions et je réponds aux questions.
Hallo. Hoe gaat het? Moet ik iets zeggen? Ik ben op mijn vriendin aan het wachten. Ze komt nu toegelopen. En ik heb haar al lang niet meer gezien. Voilà, dat is goed.
Donc voilà, moi c'est Victoria, donc je profite du beau temps pour venir sur notre parcelle dans le potager collectif. On a planté de la roquette, des radis. Que dire de plus en fait, mis à part que je trouve que ce parc et ce potager collectif, c'est vraiment le poumon du quartier. C'est une richesse en fait. Et c'est un lieu de rencontre aussi, convivial, intergénérationnel, culturel.
Bonjour, je vous laisse la parole. Bonjour, je vous laisse la parole. Bonjour, je vous laisse la parole. Bonsoir. Je te laisse la parole. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
Et vous, ça va?
Ça va.
Vous faites quoi?
J'enregistre.
Pour?
Je sais pas.
Ça va?
Ça va.
Et vous, ça va?
Ça va.
Vous faites quoi?
J'enregistre.
Pour?
Je sais pas.
Ah ouais. C'est bon?
Tu peux dire ce que tu veux.
Ah, je sais pas. Bah, je vous souhaite une bonne journée, hein. Je sais pas quoi dire, désolé.
Bonjour, je vous laisse la parole. Bonjour, je vous laisse la parole.
Laisse-moi tranquille, s'il te plaît.
Bonjour, je te laisse la parole.
Là, je vais aller au Colruyt faire des courses. Et donc voilà, je suis un peu fatigué, mais je suis content de rentrer chez moi aussi. Et il va faire beau ce week-end, donc on va en profiter. Ah, sinon, ça va. Voilà.
Il fait très beau aujourd'hui, mais il fait froid. On est heureuse de profiter dans un parc.
Et on en a marre des masques.
Et du confinement, et de l'école, et de la pression, et des études.
Voilà.
On espère avoir notre liberté bientôt.
On en a marre des masques.
Et du confinement, et de l'école, et de la pression.
On en a marre des masques.
Et de l'école, et du confinement, et de la pression.
On en a marre des masques.
Et du confinement, et de l'école, et de la pression.
On en a marre des masques.
Et de l'école, et du confinement, et de la pression.
On en a marre des masques.
Et du confinement.
Je trouve qu'il faudrait juste un peu plus de soleil parce qu'on commence à tous être dépressifs. Il faut que les gens sortent. Pas qu'on reste bloqué comme ça dans cette situation. Ça nous rend fous. Surtout les jeunes. 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 Ça nous rend fous.
Et on en a marre,
du Covid, on en a marre des restrictions, on aimerait bien arrêter de vivre, on en a marre du Covid, on en a marre des restrictions, on aimerait bien arrêter de vivre, on en a marre du Covid, on en a marre des restrictions, on aimerait bien arrêter de vivre, on en a marre du Covid, on en a marre des restrictions, on aimerait bien arrêter de vivre, on en a marre du Covid. On a marre de restrictions, on aimerait bien arrêter.
On vit pas notre jeunesse alors qu'on a à peine 20 ans, on se retrouve enfermé, emprisonné. Et dépression à 20 ans, j'ai jamais vu ça. Ouais. Dépression à 20 ans, j'ai jamais vu ça. Ouais. Dépression à 20 ans, j'ai jamais vu ça. Ouais. Dépression à 20 ans, j'ai jamais vu ça. Et voilà.
Exprime-toi, je sais pas ce que t'as sur le cœur.
Parle, Michaud, parle.
Parle de quoi? Je sais pas ce que je veux dire.
C'est juste un micro. Je sais pas, j'aime bien la Belgique, c'est un beau peuple. Et voilà quoi. Voilà, je suis amoureux d'une fille, elle s'appelle Elisa et je l'aime. Voilà.
Bah, on te laisse la parole.
Ah ouais, c'est carrément freestyle quoi. Je tenais à dire que des gens comme vous, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Qui viennent aborder les gens avec un grand sourire. Et vous avez l'air sympathique quoi.
Parole de Mars, une création sonore
de Balthazar Muller,
Romain Asséna,
Dominika Dolinska,
Eugénie Guéraud,
Doud,
Paul Rabel,
dans le cadre de RMC Radio Marie-Christine, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Atelier Grafouille, avril 2021. Et donc, on accueille en plateau Eugénie. Bonjour Eugénie.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va.
Merci de venir nous rejoindre en plateau. C'est une première pour toi sur le plateau.
Ouais.
Mais c'est pas une première en termes de participation à des projets, parce que ça fait quand même quelques mois.
Oui, je navigue un peu autour de ce projet-là, mais j'ai jamais plongé dedans comme ça.
Ben oui, là, on a lancé donc cette proposition d'aller dans la rue avec certains codes, une sorte de petit jeu. Tu as été l'une des premières à avoir répondu directement à vouloir aller à cette rencontre, à te prêter au jeu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé?
Oui, bah on était deux. Du coup, c'était un peu plus facile et plus ludique d'y aller à deux parce que j'avais jamais enregistré quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages qu'on n'a pas eu parce que j'ai juste oublié d'appuyer deux fois sur le bouton. Mais voilà, c'était très chouette et on a eu des beaux échanges. Voilà.
Ouais, des beaux échanges dans le quartier. C'est vrai que on avait une discussion comme ça avec plusieurs personnes sur ce projet-là et on se demandait, tiens, et si on l'avait fait dans un autre quartier, si on l'avait fait dans une autre rue, parce que vous êtes allé dans le parc d'abord, c'est ça?
On est allé dans Boulevard Boxtal et puis Marie-Christine un petit peu et une deuxième fois au parc de Toritaxi, ouais. Et la première fois dans la rue, il pleuvait, donc les gens parlaient beaucoup du beau temps et de je sais pas quoi dire. Et puis dans le parc, ils étaient plus détendus. Il y a une grosse différence quand même.
Ouais, si on rappelle rapidement, les consignes, c'était
aller se présenter, enfin pas se présenter, juste aller voir des gens avec le micro et demander de s'exprimer, quoi. Je vous laisse la parole, c'était ça.
C'est ça. Ça, c'était la première règle. Après, il y avait la règle de ne pas se poser de questions. Ouais. De ça, toujours rebondir, mais sans poser de questions.
Ouais, ça, c'était assez difficile. Alors souvent, on disait, on va vous dire après. Parce que les gens demandaient toujours, et c'est pourquoi, c'est quoi le projet, et vous êtes qui. Et donc, c'était un peu compliqué de juste rien dire.
Ouais. Ouais. Et donc, je parlais ouais, du quartier, de ses habitants. Toi, ça fait bientôt 2 ans que
ouais,
tu vis ici.
Oui, 1 an et demi, oui. Ouais.
Et donc, au B118. Mm-hmm. Donc, on a accueilli déjà pas mal d'habitants du B118. Moi, j'ai vu que vous aviez quelque chose de prévu tout bientôt.
Un marché dimanche 18, oui. Marché donc ouvert un peu à tout type d'artisans. Voilà.
Tu peux nous dire déjà un petit peu ce qu'on va y trouver à ce marché?
Des savons et des baumes fabriqués sur place par moi-même et beaucoup de produits séchés. C'est pas encore tout à fait établi qu'est-ce qu'on va proposer nous, mais voilà, ça va se décider dans les semaines à venir. Et probablement des bijoux, on a un ami qui fait des bijoux et le reste c'est... Voilà, on attend des invités, quoi.
C'est ça, il y a un appel ouvert à participer. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour...
Par la page Facebook, c'est le plus simple.
Alors c'est la page Facebook
de La Clé.
La Clé.
Avec une clé jaune en image.
C'est ça, et donc ça se passe au B118 qui est rue Franzmann.
118,
c'est facile. Et donc oui, tu parles de savon, de fleurs séchées, de plein de choses que tu fais toi.
Mm-hmm. C'est un projet qui s'appelle Saïra, qui a à peu près 1 an et demi quand je suis arrivée dans ce lieu. Et donc voilà, je cultive des plantes, je les fais sécher, je les transforme.
Et... Ouais, question, Rachel.
C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? De base
Je suis passionnée de tout type de plantes sauvages depuis des années, depuis une dizaine d'années, je pense. Et je suis venue à Bruxelles en fait, pour suivre une formation en herboristerie. Et là, j'avais un jardin et de quoi m'amuser. Donc, je m'amuse. Quoi.
Voilà, ok, super.
Et ce jardin, d'ailleurs, il est ouvert par moment?
Tous les mercredis, oui. Et puis les dimanches aussi, quand on ouvrait les portes, c'est toujours libre d'accès. Mais le mercredi, on travaille dans le jardin et c'est ouvert à chaque personne du quartier qui voudrait mettre les mains dans la terre.
Ça fait du bien.
Oui.
De mettre les mains dans la terre et de cultiver. Merci beaucoup, Eugénie.
Avec plaisir.
On va continuer le programme.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, retenez bien le 18 pour le super événement. Et donc, on va continuer avec une création sonore réalisée dans la rue auprès des personnes sans abri. Donc, voilà, on va vous faire écouter ceci. C'est le quatrième épisode.
Je vais à ma mère, je fais oral, je termine ma série et je dors.
Alors que je marchais dans une rue de Bruxelles qui me paraissait plus que banale, un groupe de jeunes étudiants munis de micros se sont approchés de moi pour m'interviewer. Leurs questions étaient toutes dirigées vers un banc situé dans cette même rue. Ce mobilier, ce banc sur lequel je ne me serais jamais arrêtée, était un mobilier antisocial. Suite à cette discussion, mon objectif est devenu de donner la parole à certains usagers de ces espaces qui sont souvent moins consultés. Les sans-abri. Nous sommes à côté d'un rail de train sur une dalle de béton.
À gauche, le pont du chemin de fer enjambe le canal pour aller vers le quartier nord. À droite, il rejoint l'ancienne gare de Laeken.
Nous sommes ici en présence d'affaires d'une personne sans abri.
Son lit est encadré par 4 pylônes en béton qui soutiennent une tôle en métal.
Ce sont beaucoup de grosses couvertures. Qui sont un peu entassées les unes avec les autres, avec des motifs de grand-mère assez fleuris.
couleur saumon, crème, marron.
Un sac de couchage de couleur assez fluo.
Rouge pétant de marque Simond.
Donc il est contre une grille dans laquelle il a installé son masque. Un masque jetable bleu.
Qui fait un peu hôpital.
Un Tupperware rempli de nourriture, sans doute un couscous.
Je crois qu'on devine les pigments orange de carottes, un la semoule.
Une bouteille d'eau cristalline sans bouchon. Un rouleau de Tesa, déjà bien entamé. Derrière lui se trouve l'ancienne gare du roi, qui est de l'autre côté des rails.
Depuis laquelle le roi recevait son courrier, du gibier, des quatre coins de la Belgique. On n'est pas sûr que le sans-abri aura le même traitement de faveur.
Okay. On vit à Cuba. Ah, okay. Le problème avec le Covid, j'ai perdu mon avion. J'ai deux petits garçons, une femme à Cuba. Et normalement, si tout se passe bien, je partirai à la fin du mois d'ici. Et je suis resté un an bloqué ici à cause du Covid-19. Et en un an ici, je suis resté un an à Bruxelles-Capital. J'ai passé ici des choses incroyables. Ah oui, oui, oui.
Qu'est-ce que tu as vécu de si incroyable?
On a voulu m'assassiner. Six fois m'assassiner. Non, j'ai passé ici des misères.
C'est pas que c'est des méchants, mais ils ont un sale caractère.
C'est pas vrai.
J'ai pas envie qu'on vous fasse du mal.
C'est gentil.
À fou. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité.
C'est vrai.
Nous, on essaye. Voilà. On essaye d'être cool ou gentil. Mais on ne fait pas de mal aux gens. On ne fait pas de mal aux gens. On est ici.
Les abrutis, il y en a partout.
Là, on n'a pas les mêmes voix, mais j'ai compris une chose, que dans la vie, on ne la contrôle pas, c'est la vie qui s'occupe de toi, en fait. Pour moi, personnellement, je pense comme ça. Et chaque jour, je ne vais pas te dire qu'est-ce qui va se passer demain, j'en sais rien. Mais par contre, j'essaie de, au plus de ma forme, de résister à ce qu'on vit dans cette époque qui n'est pas facile pour beaucoup de gens. C'est dur pour tout le monde. Et bon, mais il faut rester positif, comme on dit, et voilà. À toi, c'est très illusoire. Moi, en un an, j'ai eu 4 appartements. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand le matin, tu te lèves, quand tu mets tes chaussures, tu te mets un coup d'eau sur le visage, tu dis, est-ce que je me sens bien aujourd'hui dans ma vie? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de tenir ta vie dans ta main. Pour moi, c'est comme ça.
Vous contredisez, voilà. Monsieur, parce que tout à l'heure, vous avez vu que vous avez dit,
oui,
quand vous étiez en train de discuter avec la journaliste,
ouais,
que c'était la vie qui guidait.
Oui, c'est vrai.
Et alors, vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut avoir sa vie.
Oui, il faut essayer de la tenir. Ce n'est pas évident. Regarde, je suis ici parce que quand je rentre à la maison, j'ai une femme qui me casse la tête ici. Ah oui, 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 j'ai trouvé une femme ici, bah oui.
Ah super.
Ouais, bon, mais attends, à quel prix? À quel prix? À quel prix? Ouais, un an que je suis ici, un an.
C'est ça.
Oui, un an, oui, monsieur.
Et vous avez trouvé la meuf, direct.
Bon, c'est une haïtienne, une femme, elle vient d'Haïti, elle est une haïtienne. Bon, actuellement, on vit ensemble. Je suis ici, elle sait que je vais repartir à Cuba. Actuellement, voilà quoi, mais c'était mon destin, j'ai pas choisi ça.
Vous vivez comment?
On boit de l'eau pour le moment.
Ah ouais, c'est bon.
C'est un peu plus décevant.
C'est bon. Tant que c'est du liquide.
C'est pas facile. La vie est quatre fois plus difficile que la normale avec le Covid. Ah oui. Et voilà quoi, on essaye de, moralement, physiquement, de se maintenir comme on peut quoi. J'avais pas d'avion pour pouvoir rentrer chez moi. Voilà. Ça, c'est mon histoire à moi. Je vais rentrer chez moi parce que bon, je suis déjà un homme, j'ai déjà 48 ans. Je suis un ancien militaire, enfin, je suis un vétéran de l'armée. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre encore de moi. Je ne peux pas rester toute une journée enfermé. Je n'aime pas être enfermé, moi. Je n'aime pas ça. Et regarder la télévision, c'est pas mon truc. Cuisiner, là j'ai pris des plats à emporter pour faire chauffer ce soir.
T'as pris quoi?
J'ai acheté du poulet, non, du lapin et des lentilles. Mmh. Voilà.
Déjà avant, ok. Le maillot dans le sac.
Retour à l'antenne avec Monsieur Lampsiga, Louise et Lionel. Donc, comment allez-vous?
Merci, je vais très bien. Je suis content de vous rencontrer de nouveau.
Ben nous aussi.
À votre radio.
Ben moi particulièrement parce que je t'entends, Lampe, depuis quelques mois.
Oui.
Hein, parce qu'on a pu écouter un petit peu ton histoire, des témoignages, etc. Et donc, je suis content de mettre un visage derrière cette voix.
Merci beaucoup.
Tu as rencontré Louise il y a quelques mois déjà, je crois.
Tout à fait.
Tu peux revenir un peu sur cette rencontre? Comment ça s'est passé
Un hasard comme ça, super, que j'ai estimé et que j'ai pris à cœur. Et du coup, je me suis dit, ben, moi j'aime bien tout ce qui a un lien avec l'information, l'instruction ou tout ce qui peut venir avec. Ben, je me suis porté direct bénévole auprès des deux journalistes qui étaient là ce jour-là, au Claude et Lilo.
Ben oui, tout à fait. Tu étais venu directement à ma rescousse à me présenter tout le monde. D'ailleurs, comment est-ce que va la bande?
Ouh, ça a changé comme le temps. c'est imprévisible, on va dire. Mais oui. On reste toujours là pour pouvoir, comme on dit, maintenir l'église au milieu du village. C'est ça.
Nous, on a entendu Eric, on a entendu Félicité, on a entendu le Cubain. Est-ce qu'ils sont encore là? Tu as encore des contacts avec eux ou, comme tu as dit, ça, le casting a changé?
Eh ben, comme je disais tout à l'heure à Louise, le Cubain, je l'ai vu hier. Et
toujours pas rentré à Cuba alors.
Apparemment pas. Apparemment, il raconte un peu n'importe quoi.
Non. Il se trouve. Eh ben, les Cubains est à Port-de-Namur.
Port-de-Namur.
Chaussée de Havre avec leur pote en train de vivre.
C'est tout ça. Aussi exotique,
mais,
hein.
Mais tout à fait. Eric est toujours au même endroit où vous l'avez trouvé la dernière fois.
La banque alors, c'est ça.
Tout à fait. La banque et le métro. Et le coordinateur du clos, monsieur Leloup, lui, il est toujours là. Et moi aussi.
Magnifique.
Et ça va au parvis, vous arrivez encore à rester à la place? Parce que j'ai vu qu'ils ont construit des murs à l'endroit où vous traînez tous, avec votre bande. Du coup, je me demandais un peu comment tu avais vu cette mise en place de murs en fait, qui vous empêchent d'avoir accès à l'endroit où vous restiez.
Ben, si les autorités de Saint-Gilles ont barricadé l'endroit, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, ben, moi je dis rien, mais après le lendemain, ils ont arraché le truc, hein. Il y avait une partie qui était partie, et ils sont de nouveau venus.
C'est un nouveau mur de Berlin alors, une nouvelle chute du mur.
Oui, tout à fait, chute et reconstruit. Et concernant le Claude Lilo, depuis votre passage, mademoiselle la journaliste, il y a eu toute une foule de sans-abri qui sont venus là pour pouvoir être interviewés, dire ce qu'ils pensaient. Mais ben, c'est dommage que vous avez disparu, vous êtes partis. Bon, on comprend.
Mais je vais revenir.
Ça va y retourner.
Et moi, la seule chose que j'ai fait, je me suis dit, ben, je vais prendre la radio Marie-Christine, comme vous avez dit, à cœur. Et être bénévole dans vos projets d'information.
On peut même éventuellement te prêter un enregistreur que tu auras sur toi, dans ta poche. Je vois que tu as des grandes poches. Comme ça, dès que quelqu'un a envie de témoigner, de partager son expérience, alors tu fais un double clic et...
Et tu deviens un de nos journalistes.
Tout à fait.
Ben, volonté à pouvoir être bénévole au sein de la radio Marie-Christine et je vais dire coopérer, collaborer avec vous six qui êtes là. Je consacrerai mon temps pour l'instant, parce que ben, comme avec cette situation de pandémie qui est dans le monde entier et puis en Belgique ici, ben, on est un peu en mode off.
Tout à fait.
Mais on essaie de voir... le mieux, le moi, positif.
Ce que je trouve intéressant dans la démarche qu'a entrepris Louise, je pense que c'était aussi accompagné d'Hélène, hein, camarade à toi, c'est de montrer derrière l'étiquette qu'on peut avoir de sans-abri, qui a énormément de visages, énormément d'histoires, énormément de différences en fait entre toutes les personnes qui se côtoient par la proximité de la rue. Est-ce que tu partages cette opinion ?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis encore venu aujourd'hui au sein de vos locaux à la radio pour pouvoir témoigner de nouveau bénévolement, comme je l'ai toujours dit depuis que j'ai rencontré les journalistes de votre chaîne à Saint-Gilles la dernière fois, il y a quelques mois, qui sont venus pour faire leur projet. J'ai dit, ma main, l'honnêteté, contrairement à d'autres personnes qui ont raconté des histoires comme les Cubains.
C'est peut-être la fiction radiophonique.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'était bien parce que ça fait quand même quelque chose à entendre. Et puis après, maintenant, s'il y a un suivi...
Nous, on redemande de nouveaux épisodes. Hein. Peut-être le Brésilien, le Breton. On va suivre ces variants, en fait. Hein.
Je ne vous interromps pas, mais je demande aussi que vous puissiez mettre derrière quelques enquêtes sur ce que les gens racontent pour que votre radio puisse avoir une bonne réputation.
On a une excellente réputation, hein. Louise, Rachel,
votre réputation. Tout à fait, rien que nous soyons journalistes, fait que voilà. La réputation, ouais,
on est connus hein, quand même.
Louise et Rachel, ils travaillent notre communication, soignent notre communication, des logos vont pleuvoir, des stickers, donc peut-être à ton effigie aussi, Lampe.
Merci.
Tu fais partie de Radio Marie-Christine, hein. Ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut rappeler, c'est qu'on est une radio participative, ça veut dire que tout le monde l'a fait, que toutes les petites gouttes de son de Bruxelles se réunissent et qu'on fait un océan de son. Et je trouve aussi que dans ton témoignage, on philosophe dans la rue, beaucoup. Hein. Je t'entendais parler avec le Cubain, lui rappeler sa contradiction entre « il faut laisser la vie nous emporter » et « il faut tenir sa vie dans les mains ». Quelle est ton approche alors, toi ? Est-ce que tu laisses le vent décider de ton chemin demain ou est-ce que tu prends un petit peu les voiles en main ?
Les deux.
Les deux.
Les deux, parce que le vent, c'est quelque chose d'invisible, d'impalpable, mais quelque chose qu'on sent. Donc, pour moi, c'est pas l'opinion de tout le monde, mais je vais dire, j'essaie d'avoir une opinion positive qui va à l'encontre de tout le monde.
Oui, moi je tiens à dire que Lampe, ça, il m'a vraiment aidé, il m'a présenté vraiment à tout le monde, à tout son entourage, etc. Et en fait, ça prouve encore une fois que les personnes sans abri sont bien plus, au final, que des personnes sans abri. En fait, ce sont des personnes tout simplement. Et je pense que c'est un des messages que Lampe arrive très bien à faire passer, rien que par sa présence ici autour de cette table. Du coup,
tout à fait. Et d'ailleurs, Lampe, je crois que dans une des créations qu'on a pu entendre, tu interrogeais pourquoi on serait des sans-abri, en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait se définir par sans ? Alors, comment est-ce que tu définirais alors le statut, on va dire, de Eric, de Félicité, du Cubain ? Comment est-ce qu'on pourrait les requalifier, les renommer ?
Oh, ça, c'est un grand travail de longue encombre, d'ailleurs, qui est mieux fait par... Vous, le personnel de médias, qui peut éclairer cette situation. Et nous, on est là juste pour vous soutenir et être bénévole et apporter une main forte dans cette tâche qui est positive, qui est la communication que vous avez entre vos mains.
Avec plaisir. Oui. Et d'ailleurs, une petite anecdote. Est-ce que vous savez pourquoi, d'où vient le terme clochard, qui est aujourd'hui un peu péjoratif, mais à l'origine, c'était quoi un clochard ?
Quelqu'un qui se trimballait avec des petites cloches, ding, ding, ding.
Quelqu'un qui sonnait la cloche.
Qui est presque, c'était quelqu'un qui sonnait la cloche, en fait. En fait, le clochard, c'était un métier. Donc, dans le temps, dans les villes, les églises, on sonnait les cloches régulièrement. Et qui de mieux que le clochard, qui est souvent dans la rue, dans l'espace public, pour être fidèle au poste à l'heure. Et donc, il sonnait les cloches en échange d'un peu de vin, un peu de pain. Et donc, c'était un métier, à la base. Et c'est un métier qui a disparu, comme beaucoup d'autres, malheureusement.
Je ne savais pas ça du tout.
Je ne savais pas non plus.
Donc voilà, écoutez, on va réinstaller des cloches dans les espaces publics. On va refaire sonner la cloche de l'espoir. Un grand merci, Lampe, d'avoir
beaucoup.
Été avec nous cet après-midi.
Je voudrais Rachel. Juste ajouter une chose, vu qu'on parle du sujet. Je voudrais juste, pour les personnes qui écoutent, juste dire que parfois un sourire, un bonjour, un regard, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours quelque chose et c'est toujours mieux que d'essayer, parce que je sais qu'il y a plein de gens, c'est pas voulu, mais c'est mal, c'est pas méchamment, mais parfois ils regardent pas parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils peuvent rien donner. Mais il faut penser que aussi un sourire, un bonjour, voilà, c'est des humains, on est tous pareils, donc ça coûte rien et ça fait plaisir.
Oui,
voilà.
Quelqu'un me l'a déjà dit, mais parfois ça sauve des vies. Il suffit que de consacrer 2 minutes de notre temps et voilà.
Eh ben les gars, franchement, vous faites du bon travail à cette radio. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour la radio Marie-Christine. J'ai pas d'expérience en radio, mais je veux dire, honnêtement, tout ce que je donnerai ou je ferai au sein de la radio Marie-Christine avec vous six sera quelque chose de positif et de constructif.
Pour tout le monde,
et ça sera bénévole pour moi, de ma part. C'est le cadeau que je peux donner à cette bonne rencontre que j'ai eue à la radio, Marie-Christine, via Louise et sa collaboratrice lors de quelques mois à Saint-Gilles.
Magnifique. Et on vous remercie tous, en tout cas. Bah, l'aventure continue. Hein, 4 épisodes.
Tout à fait.
Un 5e en route. Et puis, Lamp, on va revenir vers l'îlot très prochainement. Alors, on fait comme ça.
Ouais. Eh ben, je vais essayer de voir mettre en place de bonnes conditions pour que ça se passe bien. Vous pouvez compter sur moi.
Super.
Magnifique.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, le live se poursuit. Hein. On a eu du micro-trottoir. Eh ben, on en aura encore. Avec un 5e épisode du micro-trottoir réalisé par Ilias et Abdella qui, pour rappel, sont allés au Mont des Arts interroger la jeunesse bruxelloise sur plein de sujets divers et variés. Aujourd'hui, un sujet sur la table assez inédit. On vous laisse le découvrir.
Micro-trottoir, Abdella. Ilias
et Abdella. Épisode 5.
Voilà, donc... Les jeunes demoiselles voulaient aussi introduire un autre sujet. Je sais pas c'était lequel, donc je t'en prie.
La contraception au masculin.
On n'en parle pas assez.
On parle vraiment pas assez de ça. Je pense que voilà, les femmes doivent prendre la pilule, alors qu'en soi, il y a des pilules pour hommes, il y a d'autres moyens de contraception pour hommes. Et au final, une femme, elle peut être enceinte qu'une seule fois chaque 9 mois, alors qu'un mec, il peut mettre autant de femmes enceintes qu'il veut.
Par jour.
Voilà.
Par heure.
Par heure.
Pas par minute.
Tu crois c'est une fabrique ou quoi? Voilà, il a de l'endorphine.
Voilà. Donc, mais la vérité, je vois pas...
Donc, les jeunes, je trouve que les jeunes garçons devraient être... Je sais même pas comment on dit le terme, mais... Ils devraient avoir une vasectomie. La vasectomie, elle est rétractable. Donc, à partir du moment où ils sont assez responsables que pour se dire « Ok, je suis prêt à avoir des enfants, je suis prêt à fonder une famille », bah c'est tout.
À ce moment-là, on peut inverser les choses.
Et en tout cas, ils s'amusent de ouf.
La vérité, moi, ce sujet, je ne le gère pas du tout. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait des moyens de contraception, c'est ça? Pour hommes, des pilules.
Oui, il y a des pilules, il y a plein de moyens de contraception pour hommes.
Viens. On est en direct avec un monsieur en ville qui danse.
Viens parler.
Non, c'est pas celui-là. Tu sais ce que ça va te faire ici ou quoi?
Donc on continue. Je savais pas du tout qu'il y avait des moyens de contraception et des pilules pour hommes.
Parce qu'ils en parlent pas assez. C'est toujours la femme qui est supposée prendre.
Je pense qu'il y a un choix. Il devrait y avoir un choix, tu vois.
En plus, si la femme
a envie de prendre un moyen de contraception, qu'elle le fasse, tu vois. Mais je pense qu'il faut plus informer les jeunes et surtout la gente masculine, tu vois.
Je m'y connais pas beaucoup dans ce sujet, mais je sais que y a pas toutes les femmes qui prennent la pilule, quoi. Les hommes, ils mettent le préservatif, c'est un temps.
Un sondage de gars qui mettent le préservatif, il y en a très peu.
Et donc qui obligent leur copine ou leur...
Si tu regardes sur internet, il y a plein de témoignages où il y a des filles qui disent « Ouais, pendant l'acte, le gars l'a retiré, tu vois, sans qu'elle le capte. »
Ok, la vérité, je ne m'y connais pas beaucoup dans ce sujet, mais en tout cas, si ça permet à certaines femmes d'être plus à l'aise, je veux dire, pourquoi pas. Je peux en parler de quoi, gros? En fait, j'ai envie d'en apprendre davantage sur cette vasectomie. C'est une opération ou c'est une pilule?
C'est une petite opération. C'est vite fait, hein. Ça se fait en un quart d'heure.
C'est en one day.
Vous pouvez un peu préciser, parce qu'on ne sait pas du tout c'est quoi.
Mais écoute, je ne suis pas un gars, donc je ne me suis pas renseignée sur la question, mais je me suis renseignée sur le principal, tu vois. Tu peux te faire vasectomiser et
quand tu as envie d'en faire, tu fais l'opération et ça inverse les choses.
Et il n'y a pas de risque comme quoi l'homme...
Après, il y a toujours des risques, hein, mais comme nous, on peut devenir infertile à force de prendre la pilule, tu vois. C'est un risque qu'on prend.
Le tampon aussi.
Ouais, et ça aussi des
personnes allergiques
au tampon.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Allergique
au tampon.
Les femmes, elles sont mortes à cause du tampon. Oula, c'est vrai.
Ça s'appelle le choc toxique. Ouais. Choc toxique. En fait, si tu gardes ton tampon, normalement, tu es supposé changer un certain laps de temps, environ toutes les 2 heures, je pense. Et t'en as qui le gardent des fois hyper longtemps. Du coup, ça fait que ça crée. Il commence à chanter derrière.
En fait, tu l'entends ici à la radio.
Ah, bah,
ouais. Ah mon ami, c'est lui qui chante. On t'entend ici. Non, va là-bas, on t'entend ici.
Mais c'est rien à voir avec la contraception, on est d'accord.
Non, c'est lui qui a
abordé le sujet des tampons. Ouais. Attends, mais en fait j'ai envie de retourner sur cette vasectomie en fait. Parce que vous dites que l'homme aussi peut faire ça, mais je veux dire c'est plus facile un peu de prendre une pilule plutôt que d'aller refaire une opération chaque fois, non?
Je sais pas, tu devrais te renseigner sur tous les effets secondaires de la pilule déjà. Avant de dire que c'est facile, puisque c'est pas facile. Changement d'humeur, tu peux prendre du poids, tu peux perdre du poids.
Tu peux sans parler de vraies maladies, tu peux faire de l'hypertension à cause de la pilule, tu vois. Enfin, au final, c'est hyper dangereux. C'est des hormones que tu rajoutes à ton corps qui sont pas les tiennes. Et au final, ben, ça t'apporte du mauvais, tu vois.
Non, mais je veux dire, pour vous, c'est plus logique d'envoyer un garçon faire des opérations chaque 2 jours.
Tu l'as fait 2 fois dans ta hayat. Tu l'as fait une première fois.
Nous, c'est un truc qu'on prend tous les jours, la pilule.
Ouais, je veux dire, si c'est un joueur, on va dire, qui veut aller de droite à gauche, donc il doit à chaque fois refaire l'opération, c'est ça?
Non, tu l'as fait une
c'est
fois.
C'est juste pour des enfants, hein, cette opération.
Ah, la vérité, je sais pas.
Imagine une personne mariée. Ouais. Qui veut faire droite à gauche. Tu vois? Ouais.
C'est ça que je voulais dire,
en fait. Une personne mariée qui fait droite à gauche, tu vois. Et genre, sa femme, elle veut avoir un enfant. Tac, d'un coup, doit aller refaire l'opération.
Mais non,
parce qu'elle est enceinte pendant 9 mois. Mais...
Tu vois, même tu te protèges.
Un de ces sujets bizarres.
Vraiment. Mais vous l'avez rendu bizarre, les gars.
Mais moi, j'étais en mode.
Vraiment. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions bizarres.
C'était
un plaisir. Voilà.
Une création sonore de Radio Marie-Christine.
Avec des voix, avec les... Avec les voix de Abdella et Ilias. Retour en direct avec Mohamed. Bonjour Mohamed, comment ça va?
Oui.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va et vous?
Super, on est en plein direct de Radio Marie-Christine. Malheureusement, tu nous avais déjà, tu as déjà participé quand on était dans la rue Marie-Christine, dans les magasins. Là, on est en format un peu confiné, donc à Grafouille. Mais l'ambiance est bonne quand même. Hein. On prend notre mal en patience. Et comment ça va par chez toi?
Ben, on fait avec, hein, comme tout le monde. Hein. C'est confinement, c'est résister jusqu'à quand on espère que tout ça va passer. Voilà.
Tout à fait. Mais je crois que tu as l'occasion d'avoir des nouveaux espaces de balade près de chez toi.
Oui, je peux vous annoncer que depuis le samedi dernier, le parc, la continuation du parc Tour et Taxi, la coulée verte et le parc L28, la continuation donc de ce parc s'est réalisée. Et alors c'est ouvert depuis samedi dernier du pont Charles de Maire, c'est-à-dire la station métro Panneneuil, jusqu'à la place Boxtal. Donc c'est la continuation de la promenade L28.
Et tu as eu l'occasion d'aller défouler tes jambes là-bas?
Ah oui, bien sûr. Ah. Dès que
ça a été ouvert,
on a été se promener là. Et effectivement, bon, c'est comme on avait prévu. Donc, les habitants du quartier avaient donné leur avis.
Tout à fait. Toi en particulier.
Pour l'élaboration de ce parc. Il y a un spielboss des jeux dans un bois. Et une plaine de jeux, une continuation de balades, de footing, et alors un étang qui peut, pour la biodiversité, des eaux qui stagnent, qui pénètrent dans le sol. Bon, c'est un peu technique.
Ça a pris du temps, mais on peut être content du résultat, alors.
Non, on est content. Voilà, on attend que des belles journées pour pouvoir en profiter complètement.
Tout à fait. Bah, là, il y avait peut-être l'occasion de faire des bonhommes de neige hein, pour inaugurer le parc.
Absolument, en mois d'avril.
Et en tout cas, ici, depuis les locaux de Grafouille, et surtout depuis le bureau de Romain, bah, on a une vue plongeante sur le parc, donc on peut apprécier en effet bah, ce que tu as dit, donc un petit spellboss, des jeux pour enfants. Alors une question, est-ce qu'ils ont pensé au public d'adolescents? Est-ce qu'il y a du matériel plus sportif
c'est
ou quoi?
un petit point négatif, c'est les jeux, c'est une scène de jeu pour les petits. Pour les ados, il y a le footing ou alors sur le parc qui existe déjà, il y avait des installations de musculation.
C'est ça. Alors, tu peux peut-être nous parler, en fait, parce que tu es chauffeur de taxi donc, dans le quartier, mais tu as aussi un lien assez fort avec la jeunesse du quartier. Hein. Je pense que tu vas à la rencontre des jeunes, toi, quand tu les vois un peu désœuvrés dans les parcs.
De poser notre présence vis-à-vis d'eux, hein, comme ça, ils voient qu'il y a aussi quelques habitants, quelques parents qui sont attentifs au fait de leur dire bonjour, de s'occuper un peu de leurs problèmes. Par des conseils.
C'est ça. Et puis tu leur donnes aussi.
C'est ce qu'on peut apporter nous comme habitants du quartier.
Voilà, tu leur donnes des informations sur des opportunités de job d'étudiant aussi, je pense, à Tour et Taxi.
On les dirige vers d'autres structures qui sont un peu plus organisées, un peu avec un peu plus de moyens.
Exactement. Mais donc tu es chauffeur de taxi et médiateur social. Peut-être que moi aussi je vais me mettre à devenir chauffeur de taxi. Hein. Comme ça, on fera tous les deux. Les mêmes deux travails.
Avec plaisir, hein, comme ça on se complète un petit peu.
Exactement. Et alors Mohamed, derrière chez toi, du côté de Pannonhuis, il y avait un terrain vague qui appartenait, je crois, à Infrabel.
Non, à la région de Bruxelles.
À la région de Bruxelles capitale.
Une zone tampon. Une zone tampon. Pour faire le métro et les habitants de la rue de Mour. Et voilà, avec les habitants, on a demandé d'occuper ce terrain. Depuis déjà quelques années, et lorsqu'on a investi, on s'est aperçu que le mur qui longeait ce terrain était un peu
fragile,
en mauvais état. Et alors on a demandé, écrire, et finalement bonne nouvelle, ils sont en train de le réparer.
Magnifique.
Donc, de consolider ce mur là qui tombait en ruine et suite lors de la fin de ces travaux, à ce moment-là, on pourra continuer nos activités.
Tout à fait.
Les activités lancées, il y a déjà le compost qui est déjà en activité, et alors quelques plantations. Mais bon, on était en Covid, et puis le mur qui devait être réparé, on était en stand-by, et maintenant, bon, on espère que ça va reprendre avec une vitesse un peu plus élevée.
C'est ça. Le terrain a été défriché, le mur est réparé, tout doucement, comme on dit en italien, qui va piano va lontano. On va arriver à un super résultat, je pense, un jardin collectif. Donc, on l'appelle le jardin L28, hein, c'est ça?
C'est comme ça qu'on l'a nommé, le jardin L28, à la hauteur de la sortie du métro Pannonhuis. Lorsque le métro se dirige vers Belgica, donc dès qu'il sort de la station de métro, c'est le terrain qui est à droite.
C'est ça. Et puis les jardins collectifs, ça fleurit à Laeken pendant ce printemps. Est-ce qu'on peut l'appeler un printemps? On va pas faire le débat météo à Radio Marie-Christine. Mais merci en tout cas Mohamed pour ce témoignage. Et figure-toi que maintenant,
pas à l'occasion, hein.
Mohamed, d'ailleurs on peut rappeler aux auditeurs qu'on peut te réécouter lors du premier et du deuxième live de Radio Marie-Christine. On était à bord de ton taxi. Tu nous as fait un petit tour de Laeken. On a replongé dans la mémoire du quartier. Et ensuite, on avait accompagné deux habitants de Tivoli Green City pour une découverte un petit peu du quartier. Je te propose qu'on poursuive l'aventure dès que les conditions le permettent.
Ouais,
alors, Romain,
pas de soucis avec...
Romain nous a rejoint.
Je voulais te saluer aussi parce que tu sais que tu es quand même l'un de nos parrains de Radio Marie-Christine en ayant participé à ce premier live et en étant avec nous à l'époque dans un magasin. Donc voilà.
Je me souviens déjà les premières réunions, le premier live, et voilà, ça continue. On est content de voir que vous vous accrochez, que de notre côté on s'accroche encore, et c'est ce qui fait le petit pas. Hein.
T'es ok qu'on t'appelle parrain maintenant?
Ah, c'est un grand honneur. Hein.
un grand merci Mohamed, et du coup, comme je te l'ai dit... Passe au bureau un de ces quatre, hein, qu'on se prenne un café après le ramadan, évidemment.
Ouais, pas de souci.
Et on se tient au courant, au plaisir de te capter. Alors reste avec nous parce que, je le disais, il y a des jardins collectifs qui fleurissent. Et c'est le cas dans l'école Bruxelles 2, à la rue Marie-Christine. Et on va écouter maintenant une petite création sonore qui raconte un peu les premiers pas de ce nouveau jardin collectif.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. Donc, votre mission pour les deux heures qui vous restent,
c'est la sorcière.
Ce ça de remplir les bacs qui sont derrière moi. Okay. On les remplit avec deux choses. D'abord, du terreau qui est là à ma gauche.
En primaire, on avait ça pour mettre les boîtes à tartines.
En fait, le mieux, c'est de vider d'abord ici les brouettes. Et comme ça, vous pouvez chacune prendre une brouette.
On est en train de réaliser un potager.
Ok.
Donc là, actuellement, on mélange de l'engrais avec, avec de la terre pour pouvoir avoir plus tard des fruits et des légumes qui viennent de l'école, quoi.
Ça nous fait de la pratique, quand même bien.
Ok, très chouette.
Je préfère mille fois être plus actif. Mm-hmm. Déjà, on n'a plus de l'éducation physique, donc ça fait un peu plus bouger, etc. Donc, voilà.
Quel cours ?
Professeur de sciences.
Oui. Okay. Et vous avez réussi à faire un lien du coup entre la création des potagers et votre cours ?
Oui, tout à fait. Dans l'étude des racines, la photosynthèse, tout ce qui tourne autour de la botanique. Donc c'est vraiment un très bon moyen d'illustrer le cours. Moi, avant, quand je venais cours aux élèves de première, j'ai germé une graine dans un petit pot avec de la terre. Là, on va pouvoir le faire directement à l'école. Et vraiment, on est en plein dans la pédagogie active. C'est vraiment c'est très, très intéressant.
Quel est l'intérêt d'avoir un potager dans une école ?
L'intérêt, ben, pour que tout le monde puisse manger des produits frais, ce qui sort du potager.
Bah, franchement, moi, d'après moi, c'est pour proposer des fruits frais à la cantine et de pouvoir commencer un business avec les grandes enseignes comme Carrefour, Colruyt, tout ça. Et franchement, vive le projet.
Si jamais vous avez besoin, c'est vrai que je vais aller en chercher un deuxième, comme ça je vais confier le cutter à certaines personnes.
C'est pour l'avenir, le potager, et il faut en planter partout, comme ça on mourra pas de faim dans 50 ans. Et voilà.
Moi je pense que si on a un potager ici, c'est pour commencer à manger local, et que nos jours, moi je pense qu'on consomme trop d'aliments d'Espagne, d'autres pays, c'est très mauvais pour l'environnement, pour la santé.
Comme ça, on mange des fruits, etc. à la récré, enfin, je sais pas. Voilà.
Pour apprendre l'agriculture et tout ce qui va avec. Genre, apprendre à entretenir des plantes et tout.
Donc, j'ai un collègue prof de sciences qui a un potager sublime. Et il a vu que je m'intéressais à son potager chez lui, à sa maison. Il avait déjà essayé de faire une tentative ici de potager dans l'école. Donc ici, on s'était mis d'accord... à nous deux de recommencer un projet de ce style-là. Lui, il a géré plutôt tout ce qui était matériel, technique, comment faire, quoi faire, quand le faire. Et moi, j'ai plutôt fait tout ce qui était organisation, c'est-à-dire mobiliser les troupes, amener les élèves, trouver des formations, trouver des contacts à l'extérieur pour ouvrir un peu l'école. On a profité du fait qu'il y avait un débroussaillage et un élagage des arbres qui se faisaient sur un terrain derrière que personne n'utilisait. Et on l'a investi directement, on en a profité. Ça a été super bien reçu par les élèves. J'estime que sur les 200, voire même 300 que j'ai amenés au potager, il y en a un vraiment qui était contraire. Les autres, de temps en temps, ils étaient un peu sceptiques. Mais après avoir travaillé 10 minutes au potager, même en plein hiver, même sous la pluie parfois ou sous la neige, ils étaient toujours partants à la fin. Et puis ils demandent de revenir souvent.
Je m'appelle Louis, Souma Louis. Je suis élève de Bruxelles 2, ça n'a rien à voir avec mon cours, mais vu que j'aime bien le prof, ça m'avait l'air cool. J'aide, je prends des photos, des bacs en question. C'était différent de l'école de base, donc j'aimais bien. Je me suis dit pourquoi pas, et voilà.
Sur le long terme, ce projet sera autogéré par les élèves. Il y aura un groupe de délégués et un groupe d'éco-délégués qui prendront soin du potager, qui décideront eux-mêmes de la direction qu'ils doivent prendre. Et là, ça recoupe une autre partie de mon programme qui est... les initiatives citoyennes, apprendre à résister ensemble. Parce que finalement, ici, c'est un potager, ça a l'air bien joli, mais au fond, c'est un acte de résistance contre une société qui essaie de nous couper de la nature.
Alors, je viens donner un coup de main sur le potager, qui en jette déjà, vu de loin. Enfin, quand j'étais loin dans la cour, c'est vrai que ça en jetait dans ses couleurs, c'était très chouette.
Je suis un ancien élève aussi. C'est un projet génial et il faudrait faire ça dans plusieurs écoles pour moi. Je pense que pour les élèves, c'est génial parce que moi, étant petit, je ne pouvais pas rester 8 heures sur une chaise.
Parce que ça crée du lien entre les gens. Et puis je crois que c'est nécessaire aussi d'avoir de la nature un peu plus dans l'école, des choses, des fruits, des légumes, toutes ces choses. Allez, je crois que c'est assez... Allez, c'est des projets qui sont assez nécessaires en ce moment.
Je suis professeure de français dans le secondaire supérieur et je me suis engagée dans ce projet formidable. J'ai la chance d'enseigner à une option qui s'appelle assistant pharmacie. Donc on a commandé toute une série de plantes, de graines qui seront des plantes que l'on utilisait déjà à l'époque pour soigner et qu'on pourra récupérer aussi comme condiment dans la cuisine. Puisqu'il y a des cours ici également de cuisine dans l'école. Et parfois, on avait des réactions au début. Oui, mais ça, c'est pas travaillé. Je suis pas dans une classe, je suis pas en train d'apprendre. Mais si, tu apprends, mais tu apprends d'autres choses qui sont complémentaires à ce que tu apprends dans la classe. Tu apprends à travailler avec d'autres. Tu apprends à discuter, à collaborer. Tu apprends à t'investir pour des choses plus durables que juste l'interrogation qui va venir la semaine prochaine. Et donc, c'est un apprentissage aussi, mais de valeurs qui sont complémentaires à ce qu'on apprend en classe.
C'est un divertissement pour tous. Pour les élèves surtout. On n'est pas tout le temps en classe, etc. Ça permet de changer d'air, de faire quelque chose de différent et de nous rapprocher de la nature. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de nature, pas assez en tout cas. Et voilà.
Même en dehors des heures de cours, ils sont prêts à venir travailler, prêter main forte. Et donc, ils s'aèrent, ils se revoient. Et dans toutes les écoles, il y a des espaces verts. Dans beaucoup d'écoles, en tout cas, il y a des espaces verts. Mm-hmm. Mais qu'elles se lancent.
Il y a de la richesse, que ce soit dans les élèves, que ce soit dans la terre. Voilà.
Et nous finirons sur ces belles paroles.
Voilà.
Et nous sommes de retour à l'antenne, donc avec un invité. Donc bonjour Dorian.
Bonjour.
Alors tu es à l'initiative du projet. Qu'est-ce qui t'a du coup donné cette envie de pousser ce projet un peu plus loin?
Pour expliquer bien l'idée qui est à l'origine du projet, il faut dire que je suis professeur de philosophie et citoyenneté à l'Athénée Royale de Bruxelles 2. Et le problème des cours de philosophie et citoyenneté, c'est qu'on est censé révolutionner, on va dire, la citoyenneté à l'école, révolutionner l'esprit des jeunes en leur donnant des idées, en permettant les débats d'idées, etc. Mais tout ça en 50 minutes, à raison de 20 semaines par an. Mmh. Et donc, dans ce format qui ne me convient pas du tout, parce que je le trouve beaucoup trop court, les élèves n'ont pas le temps de parole, on n'a pas le temps d'exprimer ce qu'on veut, encore moins par écrit. Donc déjà, à l'oral, c'est déjà pas facile, mais alors à l'écrit, là, on abandonne. Et donc, j'étais en recherche d'un projet un peu plus concret que de l'enseignement frontal habituel. Les élèves derrière leur bureau, le prof devant son tableau et tout le monde derrière sa feuille. Mmh. Et donc, j'ai trouvé cette idée de potager collectif. Je trouvais ça intéressant, c'était une initiative citoyenne intéressante, d'autant plus que dans le quartier, on voyait les choses un peu bouger avec le quartier Tivoli, avec, c'est vrai, la coulée verte, avec ce qui se passe à Tour et Taxi, et puis tous les contrats de construction dans le quartier, de rénovation du quartier. Et donc, je trouvais que l'école ne pouvait pas laisser passer tout ce changement et qu'on devait justement, au contraire, l'accompagner. Et donc, à la fois pour accompagner le changement dans le quartier, à la fois pour donner aux élèves une matière un peu plus concrète que simplement des feuilles et des leçons de morale cachées derrière des feuilles. Mmh. Je voulais faire quelque chose de pratique. Et donc, on avait dans le programme un chapitre sur le développement durable qui, en fait, s'intitule « Relations sociales et politiques de l'homme à son environnement ».
Compliqué.
Et donc, on part tout de suite dans les autres réflexions conceptuelles. Mmh. Mais l'idée, c'était de revenir à quelque chose de plus concret, plus essentiel et peut-être plus épanouissant aussi pour les jeunes. Quoi. Ne pas toujours dire « voilà, vous auriez dû faire comme ça ou vous devriez faire comme ça », mais plutôt les accompagner dans le changement et faire avec eux et même apprendre avec eux. Parce qu'au final, le potager, les jardins collectifs, moi, je connaissais très peu. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai planté ma première graine il y a 2 ans. Mmh. Et après, bon, j'ai participé ici dans le quartier à des projets de potager collectif, notamment celui du Skiveweg à la gare du Nord, rue du Progrès. Mais à part ça, je n'avais pas trop de connaissances en botanique ou en agriculture urbaine. Donc voilà, ça, j'ai un peu appris sur le temps en même temps que les élèves. Et on a été épaulés par le professeur de sciences, qui lui s'y connaît bien. Lui, c'est son domaine. Et c'est lui un petit peu qui a donné le coup d'envoi du projet, on va dire.
Et est-ce que ça a été bien reçu, du coup, par l'ensemble des élèves? Il y a déjà des effets positifs qui ressortent?
Ah oui, oui, par les élèves, ça a été excessivement bien reçu. C'est un petit peu difficile à mesurer, dans la mesure où c'est souvent une phrase, une phrase volée à droite et à gauche qu'on entend. « Ah, monsieur, le potager, ça devient quelque chose, hein, finalement. Ah, monsieur, vous pouvez être fier, hein, parce que finalement, c'est cool, on est dehors, on s'amuse, mais en même temps, on fait des choses intéressantes. » Et c'est vrai qu'ils apprennent à collaborer, ils apprennent à se reconnecter à la nature, au temps de la nature, au cycle long, apprendre à patienter, apprendre à ne pas voir le résultat de son travail tout de suite, mais plus tard. Donc, et puis à respecter l'environnement qui nous entoure, tout ça. Donc,
grâce à la radio, justement, on arrive à capter cette parole et à voir un petit peu des échos sur ce qui est en train de se faire. Donc c'est intéressant dans le sens où alors il y a l'atelier de jardinage et la radio ne vient pas juste à la façon d'un journal télévisé faire un épisode sur ce qui est en train de se passer, mais on va plus loin. On réfléchit aux pratiques. Et donc je trouve que le jardinage et la radio se marient assez bien, en tout cas dans ce qu'on a pu écouter ensemble.
Oui, c'est sûr que le reportage donnait très bien, mais justement ce projet de potager, on l'a conçu non seulement comme un projet collectif pour produire des légumes, mais pas seulement, c'est un lieu multidisciplinaire où chaque professeur pourra, une fois qu'il sera approprié le projet, venir voir de sa matière dans le potager, donc que ce soit directement en lien avec le potager, c'est-à-dire la nature du sol, la germination, la chimie, les mathématiques avec le calcul des volumes, par exemple, mais aussi des choses qui n'ont a priori rien à voir avec le potager. Nous, on a fait, par exemple, en philo, un débat sur le vaccin et le coronavirus, mais on l'a fait dans le potager. Donc, chacun a préparé dans un coin du potager sa petite argumentation, et puis on s'est retrouvé au milieu pour organiser un débat. Et c'est vrai que même si ça n'a rien à voir avec le potager apporte une plus-value, on va dire, à ce qui se passe dans le cours, parce que c'est un autre cadre, c'est une autre logique, c'est une autre hiérarchie aussi entre les élèves et le prof.
Retour à la Grèce antique un peu, où on philosophait dans les jardins.
On philosophait en marchant, ou on philosophait dans les jardins, c'est vrai, pourquoi pas. Jusqu'ici, on nous avait toujours dit, non, surtout, n'allez pas dehors, dès qu'il y avait un rayon de soleil. On recevait des ordres de service comme quoi, s'il vous plaît, ne donnez pas cours dehors parce que c'est l'anarchie après. Et mais oui, ici, ça a changé un peu avec le coronavirus. Au contraire, on a reçu des circulaires qui disaient « Dès que possible, s'il vous plaît, allez dehors », alors que rien n'était fait pour nous permettre d'aller dehors.
Donc il y a peut-être un changement de mentalité en cours. C'est vrai qu'à t'entendre, on se rend compte qu'un jardin dans une école, c'est un dénominateur commun qui permet de décloisonner des disciplines, a priori, où les profs font un petit peu leur chemin tout seuls. Donc c'est assez positif. Et je t'entendais aussi, quand on est venu te voir à Bruxelles 2, avec une volonté d'ouvrir l'école sur le quartier et vice-versa.
Oui, parce que dans une idée de développement durable, dans une idée de qu'est-ce qu'on peut faire contre le réchauffement climatique, il y a aussi une idée qui vient de plus en plus avec, c'est comment vivre avec le réchauffement climatique maintenant qu'on va avoir du mal de l'éviter. Et je pense que parmi toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est justement renforcer les liens au sein des communautés, pour rendre nos petits systèmes, notre petite communauté plus résiliente. Et on voit ça avec le commerce local, avec le zéro déchet, etc. L'idée, c'est que l'école ne soit plus une tour d'ivoire dans laquelle rien n'entre et rien ne sort, mais qu'au contraire, ça devient un des centres, un nœud dans un tissu de relations à l'intérieur d'un quartier.
Tiens, je me tourne vers Louise et Rachel, parce que au final, c'est pas très loin pour vous, les secondaires. Hein, si moi, je regarde dans le rétroviseur,
on est les plus proches, on va dire, oui.
Ce que Dorian met en place là, dans son école, est-ce que ça fait écho à des expériences que vous aurez pu vivre ou pas dans vos écoles respectives?
Moi, j'étais dans une école d'art, donc c'était quand même très libre. Enfin, on n'avait pas de potager. Je trouve que c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Je trouve qu'il devrait y avoir ça dans toutes les écoles. Mais dans mon école à moi, après, comme c'était artistique, en général, on y avait plein d'activités où on faisait de l'art, on peignait, on dessinait. Donc, ça aussi, ça aide à la cohésion sociale de classe. Donc, c'était chouette. Mais un potager, c'est une très bonne idée, je trouve.
Oui, je trouve aussi. Moi, j'étais vraiment dans une école beaucoup plus traditionnelle, un peu vraiment l'école classique. Et je pense que ça crée vraiment une échappatoire, en fait, aux élèves. Et ça permet, en fait, d'avoir des pauses et d'apprendre, en fait, mais de manière différente et tout aussi intelligente.
Tout à fait. Bah, tout grand merci, Dorian.
C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu voir.
Et bah, on va continuer à prendre des nouvelles respectives, hein, avec Radio Marie-Christine.
Avec plaisir. Quand vous voulez, vous êtes les bienvenus.
Et l'émission touche tout doucement à sa fin.
Merci, Dorian. Merci, merci. Et oui, c'est la fin. C'était le 16e live de Radio Marie-Christine. Avant d'attaquer les remerciements, les premières personnes que je veux remercier, c'est vous deux, Rachel, Louise, d'avoir co-présenté cette émission avec nous. C'était
bravo.
Très chouette.
Merci à vous, c'était cool. On a pu rencontrer plein de gens, super émission.
On continue le mois prochain ensemble ?
Aïe, 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 il va falloir... Oui, c'est bon, on viendra.
Vous voulez parler renégociation salariale, c'est ça ?
Donc, on va passer aux remerciements. Donc, merci à Thomas à la technique. Merci à l'Atelier Grafouille pour l'accueil, à Radio Panique pour la diffusion sur les ondes et à Alpha Jean pour la diffusion dans la rue Marie-Christine.
Et donc Radio Marie-Christine, c'est toujours un projet de l'Atelier Grafouille et de Bravo ASBL avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se retrouve le mercredi 5 mai, si je ne dis pas de bêtises, en direct dans la rue Marie-Christine, et puis le deuxième lundi du mois en rediffusion sur Radio Panique. Et avant de se quitter, comme à notre habitude,
bisous Marie-Christine.